France Musique. Musique et moi.
Éric Ruff.
Elsa Boublil.
Martin s'est rasé ce soir, a fait une toilette minutieuse, enfilé un bleu de chauffe propre. Pourquoi ? La relève est bien loin, personne ne doit venir, et d'ailleurs avec ce temps. Je me détourne, j'ai fallu lui poser des questions, mais son air grave m'a surpris. Après tout, est-ce que je n'ai pas envie quelquefois d'avoir une chemise blanche, peut-être une cravate ? À chacun de se mettre en fête lorsqu'il en perçoit au fond de lui le carillon.
Jean-Pierre Abraham, Armen. C'est sur ce carillon opus 76 numéro 3 de Jean Sibelius que nous vous accueillons, Éric Ruff, administrateur général de la Comédie Française, acteur, metteur en scène. Vous avez récemment mis en scène La vie de Galilée de Bertolt Brecht, qui sera de nouveau à l'affiche à la salle Richelieu du Français à partir du 30 septembre. Comme acteur, vous avez notamment joué sous la direction de Jacques Lassalle, Patrice Chéreau, Alain Françon, Denis Podalydès, Christian Schiaretti. En 2007, vous avez obtenu les Molières du décorateur et du second rôle masculin pour Cyrano de Bergerac. Comme décorateur aussi, car avant de vous former au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique, vous avez suivi une formation à l'École Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d'Art Olivier de Serres. Ce qui donne... un homme complet. Bonjour Éric Ruff.
Bonjour.
C'est un plaisir de vous recevoir.
Merci.
Sur cette belle image de carillon que j'ai voulu poursuivre dans cette métaphore musicale avec le carillon de Jean Sibelius, cet extrait de Armen de Jean-Pierre Abraham, ça vient d'où ? C'est quoi ?
Alors c'est un bouquin qui est assez peu connu, que j'ai trouvé à la Maison de la Presse il y a très longtemps, de Wesson, où je faisais un tournage, je m'ennuyais un petit peu, et j'ai trouvé ce bouquin que j'ai trouvé merveilleux. Et ce type-là est un écrivain qui a écrit toute sa vie, mais d'une façon assez confidentielle, et pour vivre, il a fait les phares et balises, donc il était gardien de phare. Et Armen est le phare le plus atlantique de Bretagne, donc c'est là où la météorologie est la plus bouleversée. Et donc il consigne, en fait, c'est une sorte de journal de bord, où son métier est de consigner le temps, et puis il ne peut pas s'empêcher lui de consigner aussi sa météorologie intime. Donc il y a une espèce de magnifique arc comme ça entre le plus grand et le plus petit, entre le plus commun et le plus intime, que je trouve absolument magnifique.
Et ce carillon qui au fond de soi, pour vous, ça résonne comment ?
Il y a des phrases comme ça, oui, effectivement, qui résonnent parce que ça élucide des choses qu'on a du mal à énoncer ou exprimer. Moi, je suis toujours très... j'aime bien le mystère. Les mystères en soi, le mystère chez les autres, c'est pour ça que j'aime bien le théâtre aussi, parce que si on savait comment le faire, on aurait déposé un brevet et ce serait plié, cette histoire-là, mais comme on ne sait jamais comment ça sort, comment ça sourde, comment ça procède, je suis toujours fasciné par cette chose-là. Et donc, en soi, quand de temps en temps, on a des avis, des envies paradoxales, comme ça, assez curieuses. Je suis toujours extrêmement curieux de l'animal en soi, de ce qui nous échappe, de ce qui échappe à l'intellectuel. Et ce carillon, de temps en temps, moi, je peux le ressentir, effectivement. On ne sait pas du tout pourquoi on se convoque à quelque chose. On a des joies, des fois, on ne sait pas du tout pourquoi elles sont là, mais on les sent passer. comme une météorologie, justement, un peu bretonne, où il y a des grains et puis des ensoleillements soudains.
On va essayer d'écouter ce carillon qui est le vôtre, Éric Ruff, puisque vous êtes avec nous jusqu'à 12h30 sur France Musique. Mm-hmm. Et en profiter aussi pour dresser un peu l'avenir, en tout cas le calendrier de la Comédie Française, puisque vous avez été à l'origine de la programmation de cette année, oui, aussi. Et entendre ces musiques qui vous accompagnent, j'ai envie de dire, votre silence à vous écouter. Merci d'être avec nous jusqu'à 12h30 sur France Musique. L'Allegro du concerto brandebourgeois numéro 4 en sol majeur BWV 1049 de Jean-Sébastien Bach, interprété par The Academy of Ancient Music sous la direction de Christopher Hogwood, qui figure comme un premier émoi musical, me semble-t-il, Eric Ruff, en tout cas qui doit remonter à l'enfance.
Oui, 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 absolument. J'avais un père très... très mélomane, mais très obsessionnel aussi. Il eut quelques passions dans sa vie, c'était des passions tout à fait dévorantes et très dirigées, très uniques. Voilà, il n'y a pas grand-chose qui existait autour. Et la musique baroque, c'était d'abord en l'entendant, et ensuite il s'est piqué de factures de clavecin. Mon père était cardiologue, je crois qu'il aurait aimé être chirurgien du cœur, mais il n'en a pas eu la durée d'études suffisante, je crois, et il a remplacé ce manque en opérant des tables d'harmonie, voilà, de clavecin. Et à l'époque, mais Pierre Antaille ou Gustave Leonhardt sont venus jouer sur les instruments de mon père, donc c'était un amateur assez éclairé.
En mais même temps, il n'était pas musicien lui-même.
Incapable de faire un accord lui-même sur le clavier, mais voilà, il mettait dans l'exactitude de sa facture toute la musique qu'il ne savait pas faire. Et donc, comme c'était avec clavecin, ça a duré très longtemps, cette histoire-là, et cette passion, et c'était Bach, Rameau aussi, enfin, beaucoup de choses comme ça, mais très baroque. Donc, on a été inondé, je peux pas dire baigné, on a été inondé de musique baroque, donc jusqu'à saturation, on a failli par se noyer à l'intérieur, et puis, l'âge passant, il est vrai que je renoue depuis longtemps maintenant avec cette musique, je la trouve, oui, ben, fondamentale sans doute, parce que c'est aussi mes fondements à moi, mais... Mais tout n'est pas acheté dans
Non,
dans
et puis ce qui est intéressant, c'est que votre programme musical du jour est quasiment que baroque.
Mais oui, parce qu'encore une fois, si vos choix sont beaucoup tournés sur l'enfance et si ce qui a construit, ouais. Ben, je sais pas, une personnalité, des choix artistiques éventuels, il est vrai que moi j'ai, voilà, Bach notamment, je ne pourrais jamais m'en départir. Peut-être que si je n'avais pas vécu cette enfance-là, je pourrais le considérer autrement, mais il y a des choses comme ça, esthétiquement aussi. Mon père nous a montré, nous a laissé voir, alors que la télévision était interdite, mais comme tout gamin, évidemment, on passait à travers, on arrivait à voir des choses quand même, mais on voyait le Molière de Mnouchkine, que d'accord. J'ai vu peut-être 15 fois dans mon...
Avec Philippe Cobert, enfin
le magnifique film, absolument pas daté, de Mnouchkine sur Molière. Et je sais que quand je fais un décor ou quand des images me viennent, je sais que mes pinceaux sont trempés de ce côté-là. Voilà.
Donc un papa très présent qui vous a en tout cas montré ce que lui, il aimait.
Oui, un papa très présent dans sa dictature,
ah oui.
Voilà, assez peu dans l'ouverture et les possibilités et les champs des possibles, voilà, c'était pas ce qu'il faisait. Il était comme un bâton dans la neige, au moins on savait qu'il était là, quoi.
Avec Bach notamment.
Thank you.
on entend tout dans cet enregistrement de l'Andante du concerto italien en fa majeur de Jean-Sébastien Bach, interprété par Gustav Leonhardt, dont on parlait à l'instant, Eric Ruff, puisque vous l'avez vu passer chez vous.
Oui, j'ai vu ce grand homme, j'étais tout petit, je m'en souviens très bien, ce grand homme extrêmement sec, extrêmement maigre, très grand, avec des cheveux gris en arrière, d'une austérité absolument dingue, qui tenait tellement droit à son clavecin. J'ai vu, dans mon enfance, beaucoup de concerts de clavecin, beaucoup de concerts d'orgue aussi. À un âge où je ne comprenais absolument pas quel était l'intérêt d'être tourné vers un hôtel où personne ne professait quoi que ce soit, et de dos à celui qui de toute façon était caché en hauteur. C'est cette espèce de spectacle absurde, extrêmement mystérieux,
oui.
d'être
mystique,
dos
là, pour le coup.
Et mystique et mystérieux, d'être dos au spectacle qui de toute façon n'était pas très spectaculaire. Ça, je me souviens d'avoir passé des heures dans le froid de la cathédrale Saint-Christophe à Belfort, à me demander quel était l'intérêt de tout ça.
Donc vous avez grandi à Belfort?
Donc j'ai grandi à Belfort, absolument.
Et comment les gens avaient connaissance du fait que votre père était facteur de clavecin? C'est parce qu'il il allait au concert, il faisait parler de lui
Oui, parce qu'il était, je crois, dans une association des amis de l'orgue de Belfort, d'autres choses, de clavecin, etc. Et petit à petit, ça, c'est une passion qui a duré extrêmement longtemps. Il a eu la voile comme passion, l'électro mécanique à un moment aussi, et puis ensuite les clavecins, ça a duré pendant très longtemps, parce qu'il a eu le temps de faire 6-7 instruments, dont certains il les a fait pas en kit, en partant carrément du bio de Poirier pour couper les planches, pour essayer de voir comment on pouvait faire des sautereaux en échine de poils de sanglier et pas en peine de plumes de corbeau, parce que c'est un animal protégé.
Enfin,
il était obsessionnel.
Vous savez tout aussi.
Obsessionnel pour ça, absolument.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Et nous sommes avec Eric Ruff ce matin, administrateur général de la Comédie Française, Gustav Leonhardt, donc que vous avez vu passer chez vous, et qui, semble-t-il, est devenu l'un de vos interprètes préférés, non ?
Ben, par respect des Madeleines de Proust, oui. Mais Pierre Antaille aussi, qui était plus jeune, évidemment, qui était un de ses élèves, me semble-t-il, est passé aussi à la maison. Mais j'écoutais ce magnifique... morceau de Bach tout à l'heure, et il y a de la mystique, il est vrai, dans cette musique-là. Alors je ne sais pas, qu'est-ce qui nous fait aimer une musique? Pourquoi est-ce qu'on aime tel style ou tel style? Moi, j'ai deux grands-parents qui étaient pasteurs, donc le poids religieux familial est assez fort, pour le coup, avec beaucoup de membres de ma famille, des conversions dans un sens, dans un autre, etc. Donc, une famille un petit peu mystique.
C'est-à-dire des conversions de...
De religion à une autre, etc. De prise de religion toujours un petit peu violente, parce que nouvelle, comme les nouveaux convertis, ça se fait rarement souplement, ce genre de choses. Donc, on a beaucoup ça dans la famille, et moi qui ne suis pas croyant, la musique prend la place de ma foi. Je ne sais pas comment dire ça autrement. C'est-à-dire que si j'avais une foi, elle serait, je pense, protestante, parce que dans ma famille, c'est celle qui était la plus ouverte, la plus écuménique et la plus souple. Et les protestants n'ont pas d'intermédiaire, sont censés être en rapport directement avec leur créateur, voilà. Il n'y a pas de pardon possible, enfin, on est dans un rapport très... Et voilà, ce que je viens d'écouter, pour moi, c'est une musique qui s'écoute seule, c'est une musique qui ouvre... qui s'ouvre à soi-même, je ne sais pas comment dire ça. Donc je ne suis toujours pas croyant, mais quand j'écoute de la musique baroque, il y a d'une certaine façon la place à quelque chose de plus mystique que mystérieux.
La cantate profane pourrait aller dans ce sens-là éventuellement.
Meine Tochter Lieschen. Herzchen sagen, die gute Brut vorbei, die gute Brut vorbei. Was ich immer alle Tage meiner Tochter Lieschen sage, die gute Brut vorbei. Was ich immer alle Tage meiner Tochter Lieschen sage, ohne Frucht vorbei, gehe ohne Frucht vorbei. Was ich meine Tochter sage, gehe ohne Frucht vorbei. Hat man nicht mit seinen Kindern hunderttausende Brudelein? Hunderttausend Hudelei, hunderttausend Hudelei, hat man nicht mit seinen Kindern. Hunderttausend Hudelei, hunderttausend, hunderttausend Hudelei.
Cantate profane, la cantate dite du café, Schweigt, Stille plaudert nicht, de Jean-Sébastien Bach, interprété par David Wilson Johnson avec l'orchestre du siècle des Lumières sous la direction de Gustave Leonhardt.
Ah bah
encore
voilà,
lui.
On y revient.
Ben oui, évidemment, puisque là il est en chef d'orchestre. Ça nous renvoie aussi à comment orchestrer, comment diriger des musiciens, comment diriger des acteurs, comment diriger une troupe. Carrément, qui est votre rôle en ce moment,
oui.
Eric Ruff, d'avoir vu Gustave Leonhardt au clavecin et j'imagine en chef d'orchestre. Est-ce que ça, pour vous, ça représentait autre chose? Est-ce que ça changeait le point de vue?
Alors malheureusement, je ne l'ai pas vu en chef d'orchestre, mais oui, ça peut être une figure modèle, mais je comprends cette chose-là. Il y a des gens qui ont besoin d'une concentration pure, et puis il y a d'autres qui ont besoin de créer des correspondances entre les choses pour qu'elles soient fertiles et aller un petit peu plus loin. Je fais partie de ceux-là. Et j'imagine que quand Gustave Leonhardt joue du clavecin ou dirige en orchestre de chambre ou dirige un orchestre symphonique plus grand, je pense qu'il fait exactement la même chose. Et c'est très souvent le sentiment que j'ai moi, on me pose très souvent cette question-là de est-ce que je préfère quelque chose dans les différentes activités que j'ai. Je dis mais tout est complémentaire et surtout tout procède du même muscle. C'est toujours la même chose qu'on va chercher. Et alors la temporalité et les outils sont différents, mais on est toujours concentré sur comment le moment théâtre existe, comment ce hic et nunc, comment on arrive à saisir ce paradoxe qu'il faut répéter beaucoup pour donner l'impression que ça vient de s'inventer. Quels appos on prend sur la table, comment on se déguise pour essayer de s'approcher de ce mystère-là, sachant qu'une fois qu'on l'a défini, eh ben on n'arrive pas à le refaire. Donc il faut réinventer les moyens tout le temps. Et ça, c'est absolument, moi, c'est ma passion. Cette chose-là, la naissance de l'émotion, la liberté du jeu, c'est vraiment une chose qui me passionne. Et donc, quand je suis en jeu, ben je l'observe sur moi, mais je suis un petit peu en aveugle. Quand je suis metteur en scène, j'essaye de trouver les composantes qui font que ce miracle peut exister. Quand je suis administrateur, c'est d'autant plus loin, mais je ne fais que ça. Et quand je suis scénographe, c'est encore une autre vue. Donc finalement, je change un petit peu de localisation, mais je regarde toujours la même chose. J'imagine que Leonhardt faisait ça aussi.
Et quand on questionne le mystère de la création, comme on le disait tout à l'heure, en tout cas le mysticisme qu'invoque Jean-Sébastien Bach avec une cantate profane comme on vient de l'écouter, est-ce que c'est une musique qui peut vous aider justement à toucher ce mystère qui est l'essence même de votre travail?
Oui, je pense bien sûr que... Si j'écoute beaucoup ça quand je travaille ou quand je me repose, c'est que ça continue une espèce de réflexion obscure, oui, obsessionnelle sur ce mystère-là. Mais le théâtre fait partie de ce mystère. On sait qu'il est sorti des églises. Maintenant, il est totalement profane. Il a été révolutionnaire. Il était agnostique. Il est tout ce qu'on veut. En même temps, ça n'est qu'une réflexion sur comment est-ce qu'on vit. Pourquoi est-ce qu'on vit comme ça? Une des phrases les plus belles de Tchekhov. Pourquoi ne vivons-nous pas comme nous aurions dû vivre? Le fait qu'on échappe tout le temps, qu'on n'arrive pas à cerner cette chose et que finalement, quand on va au théâtre, elle est énoncée un peu mieux qu'on arrive à la penser. C'est un peu notre métier d'organiser cette monstration-là, obscure, curieuse.
Poule de Jean-Philippe Rameau, suite en sol majeur, interprétée par Jory Vinicourt. Et c'est fou de se dire que juste par des sons répétés comme ça, on l'entend caqueter.
On l'entend caqueter, absolument.
C'est un souvenir d'enfance, ou en tout cas, c'est une musique que vous avez appris à aimer, Éric Ruf.
Oui, après un dégoût assez important, parce que nous allions en vacances depuis Belfort en Bretagne, il y a quelques années quand même, et mon père ne conduisait pas très vite, et nous mettions 14 heures à l'époque pour faire Belfort-Sainte-Marine, voilà, dans le sud Finistère. Et on écoutait La Poule de Rameau sur tout le voyage.
Voilà. Sachant qu'elle dure 4 minutes 25, donc c'est...
Voilà, et toute l'œuvre de Rameau, comme ça, au clavecin, ce qui nous rendait dingues, mes sœurs, mon frère et moi. Et puis maintenant, eh bien, je le réécoute avec un grand plaisir. Ça peut paraître curieux, j'imagine que beaucoup de gens écoutant cette émission, c'est « Ouh là là, le baroque, mon Dieu !» Moi, ça me bouleverse.
Ouais.
C'est une musique qui me bouleverse, parce qu'elle est en même temps, elle est drôle, effectivement. On s'amuse avec « ting, 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 ting », voilà, on écoute le bec de la poule qui essaye de casser sa graine. Ça, on l'entend bien, et en même temps, il y a des accords, il y a des envolées qui, moi, me bouleversent.
Il y a déjà quelque chose de très théâtral, en fait.
Très théâtral, et puis héroïque aussi. Et puis, voilà, des choses très enlevées. Moi, j'écoute ça comme un thriller. Ça me bouge, ça me meut. Ça m'émeut et ça me meut.
Et par rapport à ce papa qui imposait donc cette musique tout le long du trajet, étrangement, on dirait, en lisant les articles vous concernant, en creux, qu'il y a la musique, mais il y a aussi beaucoup le silence.
Oui. Oui, parce que mis à part cette musique-là, il n'y avait pas grand-chose d'autre, et les concerts que nous allions voir étaient toujours liés au baroque, etc. Oui. Bon. Et ensuite, oui, c'était silencieux, parce que mon père n'aimait pas beaucoup le bruit. Voilà, il avait un travail très prenant. Et donc, quand nous rentrions de l'école et que nous avions envie de raconter notre journée, finalement, il fallait pas le dire parce que mon père devait ou se concentrer ou se reposer. Donc, j'ai un souvenir d'enfance. Oui, on avait un grand appartement tout en long comme ça. C'était dans les années 70 et ça devait être la mode, mais il y avait de la moquette par terre, mais il y avait aussi de la moquette sur les murs. Il y avait une espèce de chose assez étouffante comme ça, assez calfeutrée. Et puis, il y avait aussi le magnifique silence de ma mère. Voilà, qui, elle, ne nous perturbait pas avec des obsessions à elle, qui essayait plutôt de faire vivre les nôtres. Voilà, donc il y avait le pendant assez extraordinaire, très empathique, très calme et très très caressant de ma mère.
Et donc le théâtre est venu aussi sûrement ouvrir un nouvel horizon, c'est-à-dire que là, la parole est possible.
Oui, absolument. Mais c'est très lié, hein. Je suis absolument persuadé, j'en discute avec mon frère, il n'a pas la même analyse, mais moi je suis persuadé que le rapport au monde était difficile à la maison parce que le monde n'entrait pas que par les petites visions de mon père, et que le théâtre est une manière assez codifiée quand même de rencontrer le monde. Donc on arrive à le rencontrer, mon frère et moi, par ce biais-là.
L'administrateur général de la Comédie-Française, Éric Ruf, est l'invité de Musique et Moi ce matin, jusqu'à 12h30 sur France Musique.
Thank you.
La puissance évocatrice de l'ouverture du Malade imaginaire de Marc-Antoine Charpentier, interprétée par les musiciens du Louvre sous la direction de Marc Minkowski, pour évoquer avec vous déjà, Éric Ruff, la reprise de la tournée du Malade imaginaire mise en scène par Claude Stratz, qui a commencé au Théâtre Gérard Philippe, donc à Saint-Denis,
oui,
et qui
l'a équipé, dernière,
qui part en tournée.
Qui part en tournée pendant une quarantaine de dates, beaucoup en Ile-de-France, beaucoup dans des lieux dans lesquels la Comédie-Française ne va plus depuis assez longtemps, donc on est très, très heureux d'y retourner.
C'est-à-dire voilà. Un petit peu faire participer le public plus éloigné de Paris à votre
Absolument.
Travail, tout simplement.
C'est notre simple mission.
Ouais, bien sûr. Et normalement, dans cette mise en scène, c'est une composition de Marc-Olivier Dupin, qui
oui.
D'ailleurs le samedi sur France Musique, qu'on salue, qu'on aime beaucoup et que vous pouvez entendre
c'est
le samedi avec Saskia.
C'est vrai qu'il a commencé sa chronique il n'y a pas longtemps.
Voilà, avec Saskia Deville. D'ailleurs, sur la pratique amateur et la vulgarisation de la musique. Donc on est complètement dans le sujet là. On n'a pas pu le diffuser, mais racontez-nous un petit peu justement cette volonté de faire collaborer un compositeur contemporain sur une pièce qui est quand même un grand classique. Mm-hmm. Qu'est-ce que Claude Stratz avait envie de faire entendre, je dirais?
Alors je crois que Claude voulait absolument faire entendre cet équilibre qu'il a très très bien réussi dans ce spectacle qui date de 2001, donc on peut s'étonner qu'on le joue encore, mais j'ai souvent observé que quand l'équation de base d'un spectacle, la lecture est tellement juste, on peut tout changer les acteurs, et là on est pratiquement à la 500e. Julie Sicard joue Toinette, et à l'époque elle jouait Angélique, voilà, donc on vieillit aussi à l'intérieur des
le
pièces.
Temps passe.
Et Claude avait trouvé une chose absolument magnifique entre le côté crépusculaire de cette pièce, parce que Molière n'en est pas mort, mais est mort en le jouant, et il se savait malade. Et il jouait le rôle du malade imaginaire. Mmh. Il s'insultait lui-même en faisant dire à son propre personnage, en parlant de Molière, qu'il crève. Mmh. C'est une chose absolument dingue. Et en mettant finalement, c'est une pièce très testamentaire, parce que tout son théâtre est réuni dans le malade imaginaire. La pièce est absolument sublime. Et il y a en même temps, évidemment, tout ce qu'on attend du théâtre de Tréteau, du Cacapipi, du théâtre de la Comédia dell'Arte, etc. Mmh. Il y a absolument tout à l'intérieur. Et Claude avait trouvé un équilibre absolument génial là-dessus. Et je pense qu'il se méfiait peut-être du côté... peut-être puissant, gonflé, grandiloquent, certaines fois, de la musique baroque qui, dans l'imaginaire des spectateurs, nous emmènerait trop loin immédiatement. Puis le faire jouer ça en live, évidemment, ça n'est pas dans nos eaux productives.
Malheureusement.
Malheureusement, on adorait. Donc il a écrit une musique absolument magnifique, notamment pour le ballet final. Ce qui est magnifique aussi, c'est que quand le compositeur est là en répétition, il sait ce dont on a besoin, il connaît les durées qu'on peut choisir, qu'on peut tenir ou pas dans une dramaturgie qui est en train de s'inventer. Mmh. Donc ça, c'est toujours un grand bonheur. Moi, je travaille très souvent avec un musicien qui s'appelle Vincent Leterme aussi, à qui je demande de faire des compositions, et c'est vrai que avoir quelqu'un à ses côtés et se dire que la musique est aussi un élément de la narration, pas plus, pas moins, et qui peut changer d'objet, d'instrument et de durée, comme un acteur peut décider de couper, d'accélérer ou pas, c'est un grand bonheur.
Pour en revenir à vous, Éric Ruff, on l'évoquait tout à l'heure, comme si le théâtre vous avait permis cette ouverture sur le monde, comment vous y êtes arrivé, puisque vous avez grandi dans cet univers qui était fermé, où c'était votre père qui décidait pour vous ce qui était accessible, comment vous y êtes venu?
Un peu par hasard, j'en ai fait au collège et au lycée, dans un club poésie d'abord, qui est devenu un club théâtre, et j'ai adoré faire ça, je n'ai aucun souvenir de la qualité de ce qu'on faisait, mais c'était des vrais intervenants d'une troupe professionnelle de Belfort qui allait dispenser leurs bonnes paroles dans les établissements. J'ai fait ça assez longtemps, et puis quand je suis arrivé à Paris, en fait, j'ai fait du dessin, et j'avais abandonné le théâtre parce que je n'en voulais pas faire carrière, et j'ai arrêté le dessin parce que j'étais dans une spécialisation qui me navrait un petit peu. Et j'ai tout arrêté, et au moment où je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as aimé dans les quelques années que tu as vécu? Qu'est-ce qui t'a fait vivre? Qu'est-ce qui t'a foutu une trouille et un plaisir absolument à la même hauteur, équivalente? C'était le théâtre. Donc j'ai recommencé, pas par vocation, mais parce que je me souvenais que là, il y avait un endroit de bouleversement intime et social et collectif et totalement personnel qui m'avait fait vivre.
Ricardo Chailly dirige l'orchestre royal du Concertgebouw d'Amsterdam dans le Boléro de Ravel. Ça y est, on est sorti un peu du baroque, Eric Ruff. Pour évoquer un moment, je pense, important dans votre vie d'acteur, mais pas seulement d'acteur, de scénographe également, c'est Cyrano de Bergerac, mis en scène par Denis Podalydès, qui a eu tellement de prix d'ailleurs, je les ai tous notés, mais c'est fou,
il y a plein de Molières. 5 Molières, je crois, quelque chose comme ça.
Et oui, évoquer justement ces deux fonctions, vous le disiez tout à l'heure, finalement comme un chef d'orchestre qui dirige des musiciens, qui claveciniste comme Gustave Lenard, vous êtes devenu acteur, mais néanmoins, hop, il y a cet autre pendant de vous qui est toujours resté plus ou moins là, celui de scénographe.
Celui de scénographe, ouais. Oui. Mais en fait, c'est revenu un petit peu. J'avais une compagnie à un moment, donc j'étais le plus bricoleur, donc ça ne s'appelait pas des scénographies, mais je faisais déjà un petit peu des décors sans les signer. Et Denis, en fait, a été le premier à me demander de faire une scénographie où je ne signais que ça. C'était la première fois. Et j'ai eu cette chance extraordinaire de faire un test avec les ateliers de décors de la Comédie Française qui sont avec des peintres, des serruriers, des constructeurs absolument géniaux. Donc c'est quand même plus facile de réussir quelque chose quand vous avez des gens qui sont capables de mettre en application le bout d'idée que vous avez. Mais donc c'est la première fois que je n'ai fait que ça et que j'ai travaillé pour l'univers de quelqu'un d'autre. Et on écoutait ce boléro et nous parlions un petit peu en off de la timidité des acteurs, de ce paradoxe de savoir qu'il y a une grande proportion de gens timides. Et Denis Podalydès est quelqu'un de timide et pas quelqu'un de causant. Il est quelqu'un de discret et en même temps, il est quelqu'un, c'est un enfant, parce que choisir le boléro et le mettre sur tout le quatrième acte qui est celui d'Arras, dans une espèce de danse de Saint-Guy comme ça, entre cadet affamé et espagnol bien trop nourri, il faut le faire. Et très souvent, je me suis dit, mais comment il ose faire ça, Denis, mettre le boléro là-dessus? Les gens vont dire, ouais, c'est facile, etc. Ben Denis, quand il écoute très simplement et que ça l'émeut, il se dit, c'est donc universel, donc ça va émouvoir, et il a cette espèce de croyance simple et de forfanterie de se dire, ben, je trouve ça beau, alors je le mets. Donc, et en même temps, ces musiques-là, toutes celles qu'on a entendues, elles sont musclées, elles sont gonflées, elles portent du sens et des mers houleuses à chaque fois. Il y a beaucoup d'instruments, il y a des fortés, des maxi-fortés, et il m'interroge beaucoup que ce soit des gens timides, justement, qui choisissent ce genre de morceaux. Ce que je ferais pas moi forcément, mais en tant que scénographe, j'aime bien ça parce que je collabore justement avec des gens qui m'enrichissent un petit peu.
Pour les auditeurs, parce que c'est vrai que nous, ça nous paraît complètement fou de se dire que des grands acteurs comme vous, comme Denis Podalydès et d'autres, qu'on va pas tous les mentionner, mais vous disiez qu'il y en avait beaucoup. Comment vous expliquez cela? Vous pouvez nous l'expliquer en quelques mots?
Je pense qu'on réussit à... Les grands timides n'ont pas foi dans l'intérêt qu'ils ont pour les autres, n'ont pas beaucoup de foi sur l'intérêt de la vie qu'ils mènent, et de temps en temps, par le biais du théâtre, considéré par beaucoup de personnes, c'est pas de la forfanterie, mais se disent, je peux vivre une vie un peu plus grande. Et je crois surtout que dans nos chimies intérieures, c'est pas facile, de temps en temps, on est dans une forêt et on se dit, finalement, j'adore ça, être dans une forêt. Il y a d'autres personnes qui sont à la montagne et vont dire, j'adore la montagne, et d'autres, je ne supporte pas parce que ça coupe l'horizon. Je crois que les météorologies intimes, certains arrivent sur un plateau un jour de leur vie et se disent, tiens, c'est drôle, c'est là que je suis libre. Et finalement, l'observent plutôt qu'ils ne vont le chercher ou qu'ils ne le savent à l'avance. De temps en temps, on est devant quelqu'un où c'est l'histoire aussi du petit mec qui fait rire tout d'un coup sa classe, la première fois qu'il fait une fable de La Fontaine et qui se dit, c'est la première fois que j'ai eu l'impression d'être intéressant pour les gens, que quelque chose se passait. Mais c'est de la chimie.
Dans l'oubli de soi aussi.
Dans l'oubli de soi, absolument.
che sfrega l'amor.
L'acte 4, scène 3 de Macbeth de Verdi, interprété par l'orchestre du Théâtre de la Scala de Milan, sous la direction de Claudio Abbado. Pour les interprètes, tout est sur le site de francemusique.fr à la rubrique Musique et moi. Éric Ruff, là aussi, on est dans un souvenir musical lié à une pièce de théâtre. Il me semble que c'est Lucrèce Borgia,
Dugo, absolument.
Mise en scène, là encore, par Denis Podalides, mais on va d'abord parler peut-être de cette musique, du sens de cette musique. Pourquoi elle vous a marqué, vous la chantier là?
Ben, elle est magnifique, et puis c'était lié à une entrée. Denis a travaillé avec Piotr Fomenko, qui est un immense metteur en scène russe, décédé maintenant, et une des grandes qualités de Fomenko, c'est que chaque personnage avait une entrée particulière, totalement sertie, en musique généralement, comme une sorte de carte d'identité. Voilà. Et là, c'est l'entrée de Lucrèce Borgia dans le spectacle de Denis, et Denis adore l'opéra, on travaille régulièrement à l'opéra, mais de toute façon, chaque comédien a une espèce d'envie folle, de respect fou, de passion folle pour les gens qui chantent. Les gens qui chantent ont une passion pour les gens qui dansent, qui ont une passion pour les gens qui parlent. Voilà, une espèce de triangle des Bermudes dans lequel les chantants, les dansants et les parlants se regardent en se disant, mais alors, et l'opéra est quand même une espèce d'art supérieur où on a l'impression qu'il pourrait tout y avoir.
Tout est possible.
Voilà. L'âme, le parler, le chanter, absolument tout. Donc c'est une sorte de salut cordial à l'opéra qu'on arrive à faire venir un peu au théâtre.
Vous, ça fait 5 ans maintenant que vous avez quitté l'habit de comédien pour devenir administrateur. Déjà, est-ce que ça a été difficile de quitter ce vêtement qui visiblement vous a aidé à être ?
Non, ça n'a pas été difficile, comme je vous le disais tout à l'heure. J'ai toujours l'impression de faire du théâtre. J'ai pas du tout l'impression de m'être enfermé dans un bureau et d'être devenu une sorte de spécialiste comptable et administratif des choses. Pas du tout. Même quand je suis dans mon bureau, j'ai toujours l'impression de faire du théâtre et de ne faire que ça. Encore une fois, avec d'autres outils, mais de ne faire que ça. J'ai pas totalement oublié d'arrêter de jouer parce que j'ai joué ce Don Alphonse d'Este dans Lucrèce Borgia, plusieurs fois. Il est vrai que le jeu me procure un plaisir, une liberté absolument dingue, mais c'est lié au fait que quand vous êtes administrateur de la Comédie Française et que vous plaisantez, les gens pensent toujours que derrière la plaisanterie, il y a éventuellement un message subliminal, ce qui est rarement le cas, mais il y a toujours ce soupçon-là. Tandis que quand vous êtes sur un plateau, c'est une sorte de périmètre sacré. Tout est possible. Et c'est votre devoir que de faire n'importe quoi, justement, et d'être libre. Donc c'est très soulageant, il est vrai.
Et en étant administrateur général, on voit bien les couleurs, les grandes lignes, mais j'aimerais bien en parler avec vous. Quelles ont été les lignes, je dirais, de préoccupation quand vous avez pris les rênes? Vous êtes dit, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire entendre au public du français? C'était faire valoir le fait qu'il n'y a pas d'époque au théâtre?
La Comédie Française a pris malheureusement des atours un peu vieillissants. Les gens pensent que c'est là, on parle de la poussière, de la famille des Atrides, etc. Alors que historiquement, c'est une maison qui a épousé toutes les révolutions de ce métier. Donc je fais simplement en sorte que ce théâtre épouse les magnificences ou les erreurs de son époque, en n'en pensant pas plus d'ailleurs. Mais quand tout d'un coup je suis face à des metteurs en scène et ou à des auteurs ou à des créateurs qui travaillent par patchwork, par montage, qui se méfient un petit peu des classiques parce qu'ils ont l'impression de ne pas être libres, donc ils vont plutôt chercher dans les scénarios de cinéma parce que c'est une matière plus meuble sur laquelle ils ont l'impression de pouvoir inventer d'autres choses. Je pense aux Danais, je pense à ce magnifique spectacle de Julie Deliquet, Fanny Alexandre, tout ce genre de choses qui sont des belles réussites, qui sont pas simples à faire parce que c'est des monstres, c'est des spectacles qui ne sont pas répertoriés encore, et dans le théâtre d'alternance que nous pratiquons, forcément de temps en temps ça touche un peu les bâtons et c'est plus difficile à faire accepter. Mais la prolixité des formes, des méthodologies de représentation, des sens, une troupe sert à ça. Il n'y a pas de plus grand plaisir, je crois, que de voir Elsa Le Poivre dans Lucrèce ou dans Les Damnés, après l'avoir vue dans Delphine et Marinette. Le fait de se dire c'est la même actrice, ça c'est absolument fascinant pour le public.
Donc, célébrer et vénérer le formel tout en allant de l'avant. On peut dire ça ?
On peut dire ça.
Come on. vizio in me vos cura.
L'acte 4 de l'Orphée de Monteverdi, interprété par le Concert des Nations sous la direction de Jordi Savall. Éric Ruff, c'est ma proposition pour vous, parce que à plusieurs titres, parce que j'ai envie de parler avec vous de Galilée, de Brecht, qui va être de nouveau en salle à partir du 30 septembre, oui. Salle Richelieu, donc à Paris, que vous avez mise en scène, et parler de l'Orphée de Monteverdi, parce que c'est aussi ce moment de la musique où il y a quelque chose qui bascule, où on théâtralise un peu aussi la musique, et c'est la naissance de l'opéra. Mm-hmm. Est-ce que c'est... Vous êtes sensible à ce moment un peu de tournant où le théâtre n'est plus simplement du théâtre, où la musique n'est plus simplement de la musique, mais les deux se mêlent?
Bien sûr. C'est le rêve ultime, toujours, que le mot devienne musique. J'ai eu la chance à un moment de diriger des répertoires de l'opéra comique où justement il y a du parler chanté, beaucoup. Mmh. Donc il faut trouver les bons interprètes pour le faire. Mais c'est passionnant de regarder à quel point, quand ça se met à chanter, c'est jamais innocent. Mmh. C'est quand tout d'un coup il faut, pour exprimer quelque chose en plus, tellement le sentiment, tellement l'ivresse est grande. Galilée, ce qu'il y a de fascinant dans cette pièce, c'est qu'on parle de révolution, donc on a toujours l'impression que les révolutions sont faites par des gens qui ne croient plus, qui ne croient pas du tout à ce qui est proposé et qui proposent autre chose. Ce qui est fascinant dans l'œuvre de Brecht et dans la complexité de ce portrait d'homme que Brecht, encore une fois, a mis en mots d'une façon extraordinaire, c'est qu'il n'est pas non-croyant, Galilée. C'est ça qui est fascinant. C'est pas quelqu'un qui dit « moi j'y crois pas du tout, c'est des conneries, en fait c'est comme ça que ça marche ». C'est quelqu'un qui a une foi profonde, c'est dit dans la pièce et rien n'autorise à penser le contraire.
Mais là,
c'est pas un anarchiste russe, c'est quelqu'un qui y croit mais qui est taraudé par un doute parce que tout d'un coup il a vu autre chose que ça. Et je trouve ça très beau parce que ça nous raconte que nous sommes nos propres paradoxes. Il est rare qu'il y ait deux équipes, il y a les méchants et les gentils. Non, on porte en soi toujours une espèce de combat titanesque entre nos penchants, nos envies, nos facilités, etc. Et que cette pièce le décrit magnifiquement.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Et pourquoi ce texte maintenant, Éric Ruff, et généralement d'ailleurs, j'ai envie de vous demander, Qu'est-ce qui motive vos choix dans la programmation ?
Dans la programmation, ce qui motive mes choix très souvent, c'est le choix d'une jeune metteuse en scène, par exemple, à qui je dis qu'est-ce que tu as envie de monter, qu'est-ce que tu as dans ta besace, quelle est ton obsession, justement. Et j'aime bien parce que l'effet de commande est quelquefois assez infertile, tandis que quand on propose à quelqu'un, alors j'écoute des choix et ces choix, tout d'un coup, je les choisis parce qu'ils résonnent sur des thématiques de la comédie française ou actuelle. La pièce de Galilée... Elle est très intéressante sur pas mal de choses, sur la foi, pas la foi, la non-maîtrise des choses. C'est ça qui m'a vachement intéressé, parce qu'on fait semblant d'être moderne, on a tous des iPhones, etc. On prend l'avion, on conduit des voitures, et on serait incapable de changer quoi que ce soit dans la voiture, de comprendre vraiment pourquoi l'avion s'envole, et surtout comment est-ce qu'on pourrait réparer notre iPhone. On est dans un monde où vraiment...
On est dépassé par la technologie.
On est totalement dépassé par la technologie, où on parle de Darknet, de choses, d'océans d'informations dans lesquels on ne peut pas aller. Donc, il m'intéressait qu'on revienne à ceux qui ont justement la maîtrise et qui découvrent tout d'un coup ce qui dérape. Je trouve ça fondamentalement intéressant. Et notre crédulité, justement, et cette pièce parle de la foi et de la crédulité, de l'incrédulité par rapport à la foi et inversement. Et je trouve que c'est des notions qui sont finalement magnifiques à remettre un petit peu, pas à l'ordre du jour, mais qu'on se repose ces questions-là nous-mêmes.
Un extrait d'Iphigénie en Tauride de Gluck, un opéra enregistré en juin dernier au Théâtre des Champs-Élysées, diffusé le 31 août dernier dans Samedi à l'Opéra de Judith Chen, et qui est donc une mise en scène de Robert Carsen avec le chœur et l'ensemble Balthazar Neumann sous la direction de Thomas Hengelbrock, et puis avec notamment Gaël Arquez et Stéphane Degout, qui est une production que vous avez vue.
Oui, absolument.
Éric Ruff, donc vous sortez quand même beaucoup malgré votre emploi du temps, et qui vous a visiblement marqué, touché.
Oui, la production était absolument magnifique. Et puis Gaëlle Arquez, je la connais un petit peu, parce qu'elle a travaillé sur un opéra, le Contori, à l'opéra comique dont je faisais la scénographie. Et je suis fasciné par cette nouvelle génération de chanteuses extrêmement douées, avec des voix dingues, mais avec un goût pour le jeu, une curiosité de ça. Donc c'est très agréable pour nous, metteurs en scène de théâtre, parce qu'on a enfin les interprètes un petit peu plus longtemps. On peut enfin travailler avec eux et échanger avec eux. Et Gaëlle Arquez est une merveille sur pattes, quand même. C'est absolument incroyable. Je suis fasciné, moi, de toute façon, par les chanteurs. J'ai toujours l'impression qu'ils ont mangé un dieu. Ils ont quelque chose... C'est comme très curieux, on parle avec des gens, ils sont normaux et tout d'un coup, je ne sais pas comment ils vont chercher cette chose-là, mais ils sortent des sons absolument dingues, comme s'il y avait plusieurs personnes en eux. Quoi.
Pourtant, la voix, c'est aussi, ça fait partie des attributs des
Bien
comédiens.
Bien sûr, mais on a moins cette différence d'un comédien généralement. Alors, il y a des gens très costauds qui ont des voix très douces et inversement, on se souvient Terzieff à la fin de sa vie qui avait un volume de voix extraordinaire. On se disait, mais d'où ça vient dans un corps si décharné? Mais il y a quand même moins de différence de temps en temps avec les musiciens, qu'ils soient d'ailleurs des instrumentistes aussi, hein, des gens, on parle avec eux, il n'y a rien de bien spécial, et ils se mettent à leur instrument, et tout d'un coup, il y a une espèce de vérité qui sort, ça me passionne. Et Gaëlle Arquez est merveilleuse.
Et vous qui avez une voix, on l'entend depuis le début de cette émission, vous avez une voix avec du souffle, vous avez dû travailler pour vous faire entendre, justement? Ou ça vient naturellement sur scène?
Malheureusement, cette voix avec du souffle me vient naturellement. Malheureusement, je me la suis beaucoup reprochée. Je déteste m'entendre à cause de ça. Parce que oui, je n'aime rien tant que les voix qui sont pures,
timbrées,
qui vont à l'essentiel, qui sont timbrées. Et j'ai moi toujours l'impression que je transporte des brouettes au milieu de tout ça. Enfin voilà, mais ça ne m'a pas empêché de
Nous, on adore votre voix. Ouais. On adore votre voix. Voilà, ne la changez pas. On va se quitter, déjà, Éric Ruff. Peut-être attirer l'attention des auditeurs sur une ou deux choses qui vous paraissent incontournables dans les semaines à venir.
Il y a les créations qui se font. Il y a on a la chance d'avoir des salles pleines, donc c'est plutôt pour la curiosité des spectateurs. On va commencer un Jules César de Shakespeare monté par Rodolphe Danna au Théâtre du Vieux Colombier, et puis on commence là la puce à l'oreille avec L'île au bord. Mais on aura des reprises magnifiques qui sont justement des reprises qui font montre de toute l'excellence et la diversité de ce qu'on propose. Le Electre et Oreste va revenir. Il y aura La Nuit des Rois aussi dans la mise en scène de Thomas Ostermeyer qui va revenir. Donc voilà, il y a beaucoup de choses.
Belles choses, hein.
Beaucoup de choses à venir.
Tout est sur le site de France Musique et la rubrique Musique et moi, donc de toute façon les auditeurs ne s'y perdront pas. On va se quitter puisqu'on a aimé la musique baroque aujourd'hui, on va se quitter avec Marin Marais.
Ah oui.
Les suites d'un goût étranger, La Rêveuse.
Ça doit être Jordi Savall d'ailleurs.
C'est par l'ensemble La Rêveuse. Voilà. C'est ce que vous écoutez pour vous détendre?
Oui, ben voilà, c'est, pour moi c'est la musique de l'âme. Et puis je ne sais plus qui a dit que le violoncelle avait la voix, ou la viole de gambe était l'instrument le plus proche de la voix humaine.
Puisqu'on parlait de voix.
Oui, absolument.
Merci beaucoup Éric Ruff d'être venu passer cette heure et demie avec nous.
Merci à vous.
À bientôt.
Thank you.
C'était La Rêveuse de Marin Marais, interprétée par l'ensemble La Rêveuse, pour terminer cette émission en compagnie de l'administrateur général de la Comédie Française, Éric Ruff, qui était donc l'invité de Musique et moi ce matin. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant cette émission sur le site de francemusique.fr à la rubrique Musique et moi, les dates de spectacles et de tournées, ainsi que les références des musiques diffusées ce matin. On se retrouve dimanche prochain à 11h. Un grand merci à Marie Le Peintre qui était à la prise de son, Sophie Pichon à la réalisation, Marie Ferdinand, attachée de production. Très belle semaine à vous et à dimanche prochain, 11h, sur France Musique bien sûr.
France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.